pour faire une fois.
Ça a augmenté hein, la participation. Après, vous en faites des MP3, vous en faites quoi ? C'est vrai ? Cécile Thérèse. Alors, je ne vais pas. Je vais commencer par me tirer une balle dans le pied. Je ne vais pas vous apprendre des choses. C'est simplement pointer certains aspects de ce témoignage dans nos visites auprès des personnes malades pour nous aider à relire aussi et à réfléchir à notre pratique, à notre exercice, à notre manière d'être, tout simplement. Je n'ai pas plus d'ambition que celle-là. Premier point, et l'introduction a été rapide. Le premier point, alors j'ai écrit comme ça, Église ou ONG, point d'interrogation. Vous vous rappelez le pape François, lors de sa première messe, juste après son élection, dans la chapelle Sixtine, il avait dit aux cardinaux qui étaient présents, « Nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. » Nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire. Vous vous rappelez, il avait dit ça. Mais non l'Église, épouse du Seigneur. Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l'Église, épouse du Seigneur. Et le pape, au fond, nous pose la question de ce qui fait notre différence, de ce qui fait notre être comme chrétien en visite. Cette semaine, j'écoutais sur Internet une émission de KTO sur la synodalité. Et alors, dans La foi prise au mot, si vous connaissez cette émission, et alors il y avait un mec qui s'appelle Joël Lambert, avec un nom comme ça. Le présentateur disait, mais quand on fait un synode, c'est quoi la différence avec une AG d'association ? Eh bien, il a répondu tout de suite, ben, on commence par prier. Et on vit tout ça à la prière. Ben, ne serait-ce que ça, il y a déjà une différence fondamentale et profonde. Et le pape nous rappelle cela. La différence, confesser Jésus-Christ. Nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés. Apôtres, missionnaires. Apôtre, c'est un mot d'origine grecque. Missionnaire, ça veut dire à peu près la même chose, mais c'est d'origine latine. Apôtre, missionnaire. Apostolein, en grec. Alors moi, je dis souvent, on est l'aposte du Seigneur. L'aposte, ça vient de envoyer. Hein. Donc, on est les postiers du Seigneur, en quelque sorte. Donc, reprendre conscience, toujours revenir à ce point essentiel, nous sommes envoyés. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Là, c'est la finale de Saint Matthieu. Hein. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. L'Église qui est le corps du Christ, qu'il fonde sur le témoignage des apôtres. Les apôtres, c'est les 12, mais les apôtres, c'est nous aussi, de par notre baptême et de par notre confirmation. Non seulement notre baptême nous fait membres du corps du Christ, nous configure au Christ pour offrir le monde, mais aussi pour l'annoncer, pour servir le monde, c'est-à-dire régner. Et ça, par notre confirmation qui déploie cela. Alors, si cela extérieurement ne change pas d'une certaine manière, alors certains d'entre vous portent la communion, donc c'est clair, c'est net. Mais peut-être dans le milieu hospitalier, parfois, on peut, ça dépend des lieux en plus, ça dépend des services, etc. Parfois, on peut passer dans les chambres, même si les personnes n'ont pas appelé, n'ont pas demandé. Là, effectivement, on peut apparaître extérieurement comme le visiteur. Moi, je vois dans l'unité de soins palliatifs, là où j'étais, eh bien, il y avait une association de visiteurs à confessionnel. Donc là, c'est vrai que extérieurement, on peut, bon, même si souvent on a un badge et que ce badge il y a une croix ou que ben, on vient au nom de l'aumônerie. Donc déjà, ça interpelle, déjà ça questionne ou déjà ça suscite, comment dire, une discussion de fait. Mais reprendre bien conscience, je suis là envoyé. Et comme envoyé, je suis déjà signifiant. Même s'il n'y a rien qui se passe. Je pensais vendredi, là, hier, à la messe au peuplier, quoi. Mais voilà, on est là, on est écrit sur le... Comment ça s'appelle ? Le tableau d'en bas, à l'entrée, 17h, office ou messe, je ne sais pas ce qu'il y a écrit exactement. Et puis, on nous voit monter, chercher, descendre, les personnes. Enfin, voilà. Il y a une visibilité qui est déjà un témoignage. Nous n'oublions pas. On va dire, ça ne va pas très loin, mais c'est déjà ça. Nous, chrétiens, parfois, on est mal à l'aise parce que on nous... Je veux dire, où on se moque, où on est quand même un peu méprisé, on peut le sentir, mais on oublie que s'il y a parfois une certaine réaction, c'est parce qu'on est là. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas de réaction, quoi. Action, réaction, vous savez, comme dans les choristes. Vous vous rappelez de ça ? Ça commence à être vieux, ça, mais enfin, bon, bref. On a ces références qu'on a. Bon. Voilà, premier témoignage, cette visibilité, et prendre conscience que nous sommes envoyés. Quelque chose qui nous dépasse. Et envoyer, et en soi, alors on va le développer un peu, mais hein, c'est cette sacramentalité de l'Église. Nous sommes signes et instruments du Christ. Cette sacramentalité, manifester le Christ et aussi être les mains de Jésus, être la parole de Jésus, être le regard de Jésus, être la compassion de Jésus, là, aujourd'hui, comme membre de son corps. Oh là là. Envoyer pour, comme dit la première épître de saint Pierre, pour rendre témoignage de l'espérance qui nous habite. Alors ça nous fait penser, passer au second point. Cette espérance, qu'est-ce que ça signifie ? Et alors le deuxième point, je l'ai appelé disciple missionnaire. Maintenant c'est une expression qui est bien passée et très bien, qui est bien passé dans nos esprits du pape François, et qui est très riche. Alors, on pourrait faire toute une conférence là-dessus, mais je vais développer qu'un petit point. C'est d'abord une expression qui est très biblique. Rappelez-vous, dans saint Marc, au chapitre 3, Jésus qui appelle les 12, il institue les 12, et il nous est dit qu'il les appelle pour être avec et les envoyer prêcher. Être avec... Envoyer prêcher, missionnaire, apôtre, être avec, c'est disciple. Vous savez, disciple, en grec, c'est un mot, disciple, c'est le latin, mais dans l'évangile, le mot grec qu'il y a dessous, c'est apprendre, les appreneurs. Il y avait une traduction qui avait traduit comme ça, les appreneurs. Bon, c'est pas très beau. Quand Jésus dit... « Mettez-vous à mon école, sachez que je suis doux et humble de cœur. » La plupart du temps, la traduction, c'est « Soyez mes disciples. » On pourrait traduire, voilà. « On se met à l'école. » Se rendre enseignable. Se rendre réceptif à la parole de Dieu. Cette parole, on ne l'invente pas. On la reçoit pour la transmettre. Ce n'est pas une transmission comme je transmets, ça fait penser à... Les courses de témoins, vous savez, il y a une baguette. Vous dites, oui, une baguette des courses de témoins. C'est une baguette. Alors là, ce n'est pas une baguette qu'on transmet, c'est le Christ, une personne. Une personne avec qui je vis. Il faut que je reprenne ma feuille, parce que sinon, je vais m'en aller. Donc, être disciples missionnaires, nous sommes envoyés, mais attention, d'abord, nous sommes pour être avec le Seigneur. Le prendre du temps pour le connaître, pour l'écouter. Si je veux être témoin du Seigneur, eh bien, il faut que je le connaisse, que je le fréquente. Sinon, on apporte quoi ? Une idée vague et diffuse, une philosophie, comme dit le pape, ça ne va pas. Eh bien là, ça nécessite de prendre du temps, et ce n'est pas du temps volé. Ce n'est pas du temps, sur le service, sur l'attention aux pauvres et aux petits. Je te fréquente, Jésus. Je te fréquente. La lecture de la parole de Dieu, Il y a des paroisses où il y a l'adoration, la messe, les sacrements, le sacrement de la réconciliation. Si on parle du Seigneur qui pardonne et que nous-mêmes, nous nous approchons jamais du sacrement de la réconciliation, nous ne vivons pas cette joie du pardon, je veux dire, on va témoigner de quoi ? C'est tout con. Enfin, c'est tout... Ça se dit pas, ça. C'est tout bête. J'aurais dit couillon, mais bon. Non, ça ne marche pas. Je témoigne. Regardez, au cathé, moi, je me rappelle, quand j'étais curé, souvent... Les gamins, ils étaient touchés, quoi, par tel ou tel paroissien. Ils n'avaient peut-être pas fait plein de trucs, ils ne savaient peut-être pas beaucoup, beaucoup de choses, mais on sentait que c'était des priants. On sentait que Jésus, c'était quelqu'un pour eux, pas une idée. Nous ne transmettons pas une idée. Sinon, on va tomber dans l'idéologie. Hein. Nous ne transmettons pas des valeurs. Ce serait bien, les valeurs. C'est important. Mais ces valeurs, elles viennent de quoi, d'abord ? Elles viennent de cette personne, de cette rencontre, de cet événement. Benoît XVI, quand il avait été élu pape, il avait dit ça à sa première messe sur la place Saint-Pierre. Hein? Le christianisme est un événement, c'est une rencontre. Pas rencontre avec une idée, avec une personne, le Christ, qui est venu dans la chair, qui est fils de Dieu, pour nous sauver. C'est une personne qui est quelqu'un. Donc là, la foi, ce n'est pas mes idées. Il est le Fils de Dieu, fait homme, venu nous sauver. Mais cette personne, je la fréquente. Et donc j'entre toujours plus dans une connaissance avec lui par cette fréquentation. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui m'habite et surtout qu'est-ce que je fais pour nourrir, entretenir cette foi, cette espérance dont je témoigne ? Et dont je témoignerai, on va voir ça de façon diffuse. Rappelez-vous ce que dit la première épître de Saint Jean. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en rendons témoignage et nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu, touché, entendu, ça nous provoque à revenir en nous-mêmes pour dire, mais c'est quoi ma foi ? Moi, je me rappelle toujours ce que racontait le père Guiffret, vous avez connu le père Guiffret, l'ancien vicaire général, et qui me disait un jour, il disait, tu vois, on avait une réunion avec l'évêque, Monsieur Bagnard, et puis des élus, et puis des membres du conseil pastoral d'un coin, et un membre du conseil pastoral dit à un des élus, mais vous attendez quoi des chrétiens ? Et réponse du gars, qu'ils soient ce qu'ils sont. Et réaction du monsieur du conseil pastoral, et qu'est-ce que nous sommes ? Alors, c'est un peu, il y avait au moins le mérite de la lucidité et puis du questionnement, mais on est un peu sur le derrière, comme on dirait dans certaines régions. Qu'est-ce que nous sommes ? Ah, voilà la bonne question. Et oui. Et donc, cette dimension aussi de la formation, cette dimension de la prière, cette dimension de la connaissance amoureuse du Christ est fondamentale. Et du coup, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est que le fait de fréquenter le Seigneur, de vivre avec, par la prière, les sacrements, fait que, d'une certaine manière, il passe à l'insu de notre plein gré. L'expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça c'est le troisième point. À l'insu de notre plein gré, quoi. Être témoin du Christ, ça nous dépasse. Dans le sens que certaines paroles, certains gestes auxquels nous n'avons pas fait attention deviennent signes du Christ. Parfois, les gens nous disent... Alors, nous, prêtres, ça nous arrive de temps en temps, quoi. Des gens, à la fin de la messe, nous disent « Ah, vous avez dit ça dans l'homélie, oh, ça m'a beaucoup touché, ça a éclairé ma foi. » Ah ouais, d'accord, ouais, c'est beau, c'est bien, peut-être, j'avais dit ça. Et puis, je veux dire, on ne l'avait pas dit. Bon, je veux dire qu'il y a des choses qui font chemin dans le cœur, dans la tête des gens, quoi, et qui prennent signe, qui deviennent signe, qui prennent sens et qui résonnent dans leur cœur. Donc, comment dire, et on le voit parfois, des personnes, de temps en temps, on a un témoignage comme ça. Et puis, oui, votre geste, ou votre parole, ou votre sourire, ou votre... attention, quoi. Eh bien, ça m'a beaucoup touché. Puis on s'en était pas rendu compte, quoi. C'est-à-dire, le bon Dieu passe. Le bon Dieu passe, comme je dis, à l'insu de notre plein gré, quoi. Parce qu'on est bien là, en son nom et pour lui. Puis il y a quelque chose qui passe. Quelque chose de mystérieux. Ça, on le possède pas. Il y a des repères. Le témoignage, il y a des repères. Mais il y a aussi une part non négligeable qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le vent souffle où il veut, vous rappelez à Nicodème, hein, tu entends sa voix, tu ne sais pas d'où il va ni où il vient. Un écho en l'autre qui nous dépasse, l'œuvre de l'Esprit Saint, et qui est mystérieux. Et donc, d'une certaine manière, notre dépoignage nous dépasse, nous sommes témoins de cette action de l'Esprit Saint dans le cœur des autres. Par notre médiation, comme je dis, à l'insu de notre plein gré. Et c'est en cela que nous sommes instruments du Christ, un instrument volontaire, un instrument qui réfléchit, mais il n'empêche que, eh bien voilà, le Seigneur passe par nous parce que nous nous sommes rendus d'abord et avant tout disponibles à sa présence. C'est quoi cette musique ? J'entends, je suis comme... Non, vous entendez la musique? Oui, bon, c'est bien, c'est pas moi qui commence à être Jeanne d'Arc. Comme c'était pas la musique qu'elle écoutait, hein. C'était des voix. Bon, c'était déjà pas mal. Bon, d'accord. Mais, quatrième point, il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. C'est-à-dire que on voit que le Seigneur il agit à travers nous de façon très mystérieuse. Parfois, on pensait que telle parole ou telle action ou bon, et puis que en fait c'est autre chose qui a fait écho dans la personne et qui a été un chemin pour elle. Mais aussi, nous découvrons que eh bien, nous sommes plutôt témoins de l'action de Dieu qui était là avant nous, qui nous a précédés. Qui nous a précédés. Le Seigneur était là. Et à nous de reconnaître sa présence. Et parfois de façon émerveilleuse, parfois stupéfaite. Hein. Bah, je crois qu'aussi que parfois on l'expérimente. Super. Et donc, comme dans les magasins, vous savez, on met de la musique. On l'expérimente parfois dans cet émerveillement qu'on peut avoir de l'attachement des personnes au Christ. Moi ça m'émerveille comme prêtre quand on porte la communion. Et parfois, il y a des personnes... J'avais une mamie comme ça. Une mamie, excusez-moi, mais bon. Je ne sais pas comment elle s'appelait, là. La dame au peuplier, là, qui était toujours couchée, là. Et alors, je lui portais la communion. Et alors, parfois, elle dormait. Alors, il fallait que je la réveille, parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait bien que je la réveille. Puis parfois, je faisais esprit toujours dire « Je vous dérange, hein !» Puis alors, elle avait un grand sourire pour me dire « Non !» Puis il y avait vraiment cette soif, cette faim... de l'Eucharistie. Étonnant, hein? Puis, une des premières fois, vous savez, comme avec les petits-enfants. Alors, je disais, « Jésus, je t'aime. Alors, Seigneur, tu es là. » Tout ça. Et puis, elle répétait. C'était mignon, tout plein. Elle répétait, « Jésus, je t'aime. Jésus, tu es là. » Bon. Puis, tout d'un coup, je dis, « Jésus, tu viens vers moi. » Alors, je dis, elle va répéter, « Jésus, tu viens vers moi. » Et puis là, elle ouvre la main. « Jésus, je viens vers toi. » Et j'ai dit, tac. Parce que moi, je pensais qu'elle répétait comme ça, mais tu parles. Ça fonctionnait. Puis j'ai trouvé très beau cette femme qui pouvait guère se lever, qui était sur son lit, là, avec le truc contre Escar, tout ça. Alors, ça faisait du bruit, tout ça. Bon, puis qui vivait quand même. C'est difficile. Et chaque fois, elle me disait, oh, il y a pire que moi. Alors, bon. Mais alors, cette joie de l'Eucharistie. Puis voilà, Jésus, je viens vers toi. Donc, là, on se dit, ben, on est témoin de l'action de Dieu, quoi. On n'est pas témoin dans le sens que on va réveiller ou on va, on l'est parfois, ou on va susciter la foi, ou on va. Là, on est témoin émerveillé et tout petit devant l'œuvre de Dieu dans un cœur, dans une personne. Il vous précède en Galilée. C'était très mystérieux. Hein. C'est l'expérience de Jacob, hein, vous vous rappelez, à Bethel, hein, l'échelle. Hein, ce lieu est un lieu de Dieu et je ne le savais pas. Voilà. Alors, c'est sûr, si, comment dire, je ne fréquente pas trop le bon Dieu, ben, pour des trucs comme ça, ça va, mais je vais. Vous savez que c'était le groupe téléphone, ça, quand j'étais plus jeune, ça se sent que c'est toi. Non, je vois, on est à peu près le même âge, donc on a les mêmes références. Et donc, hein, ça se sent que c'est toi, je reconnais que c'est toi. Ça sent le bon Dieu, vous voyez. C'est la manière de faire, comme dit le pape, il emploie souvent cette expression, le style de Dieu. C'est le style de Dieu, le style, la manière d'agir du bon Dieu. Ah oui, ça sent que c'est toi, Seigneur. Ben, pour pouvoir dire ça, il faut avoir... c'est comme dans un couple, comme dans l'amitié. Hein, dans les familles, ah ben ça c'est bien lui, parce qu'on connaît par le cœur, on connaît la personne. On se dit, ah ben, j'ai toujours frappé, vous savez, comment il s'appelle, après la résurrection, là, ils sont à la pêche. Hein, puis Jean, les apôtres. Et puis Jean, il voit, il y a Jésus qui dit, les enfants, vous avez de quoi manger? Vous avez pris quelque chose à la pêche, ça? C'est le Seigneur! Comment tu reconnais que c'est le Seigneur alors qu'il est loin, alors qu'il te demande si tu as à manger? C'est le Seigneur! C'est cette connaissance de l'amour qui fait qu'on a cette connaissance intérieure, cette reconnaissance. J'ai reconnu que tu étais là. Parce que je te fréquente. Et dans ces moments-là, dans cette rencontre avec ces personnes, il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc, il nous précède en Galilée. Nous sommes témoins de cette action du Seigneur. Alors, ça nous ouvre à témoin de cette action du Seigneur. Je veux dire, on pourrait dire, mais alors... que faire, comment réagir, quel est... oui, donc, cinquième point, parole et silence. Alors, je ne fais pas de la pub pour une maison d'édition. Parole et silence. Nous sommes témoins de ce que nous partagent les personnes. Je vois hier une petite mamie, quand je suis arrivé, elle m'a dit, il faut que je vous dise, père. La mère Machin, hein, elle m'a dit que j'étais une menteuse. Bon, alors vous savez, ça m'a fait comme un pic au cœur, alors entre chrétiens, etc. Bon, on a essayé de répondre, et puis d'élever sur subcorda, quoi. Bon, hein, alors elle était... Bon, donc, témoin de l'action... du Seigneur. Alors, témoin de ce que nous partagent les personnes. Ça peut être la révolte, la souffrance, la joie, la foi, l'action de grâce, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, pour recevoir tout ça, il faut du silence, de l'écoute vigilante, attentive, laisser parler les personnes. Puis on commence à dire, ah bah oui, c'est comme moi. Et c'est aussi une disposition intérieure d'ouverture à l'Esprit-Saint, d'ouverture à reconnaître les signes de Dieu, à reconnaître la présence du Seigneur. Cette écoute vigilante, attentive. Quand elle me dit ça, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle. Quand ma petite mamie, là, hier, la petite dame, elle me dit. Me confie ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux répondre? Parce qu'il y a une parole à donner. Alors il faut qu'on sorte, je pense, parce qu'on l'a trop dit, et au niveau communication, c'est pas très bon. Je sais pas pourquoi, moi je suis né en 68, donc. Mais on dit toujours, je vois, on l'a tellement rabâché que du coup, on dit plus rien. Il ne faut pas donner une réponse, il ne faut pas donner une réponse toute faite, ben ça c'est évident. Mais à force de dire ça, ben on ne donne plus du tout de réponse, on dit plus rien. Alors, on rend témoignage de quoi? De rien. Ben voilà, on a écouté, ben c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais je crois que les gens attendent quelque chose. Alors, quelle parole à donner? Parole, parfois c'est une parole de silence. Et oui, une parole de silence, il faut bien le reconnaître, et qui est très forte, hein, une parole de silence, ça peut vous éclater les tympans. Parole de silence qui est habitée, ça peut être un geste, c'est une forme de parole, vous allez me dire. Hein? Un geste, un silence plein de présence, de compassion, parce que nos mots sont trop petits, sont trop pauvres. Où on voit qu'on ne peut rien dire parce que l'autre ne pourra pas accueillir ou que ce n'est pas encore mûr ou que... Bon. C'est sûr, on oscille toujours entre trop d'audace et un manque d'audace. C'est toujours, et puis c'est toujours un peu culpabilisant. Oh, pétard, j'aurais dû dire ça. Ben oui, mais tu revois le film le soir chez toi ou dans ta voiture ou je ne sais pas quoi. On va en reparler tout à l'heure. Et là, il faut répondre sur le moment, quoi. Bon, l'autre fois, je suis allé aux Arbelles, une famille avait demandé que je vienne. Alors bon, on vient comme ça, comme c'est prestataire de service, entre guillemets, la famille n'est pas là, là-dedans, parce que la dame, elle est plus ou moins, peut-être plus que moins décédée, tout ça. Bon, j'arrive, il n'y a personne, la dame dormait, l'infirmière gentiment m'a suivi, mais du coup, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, elle dort, il n'y a pas la famille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne le sacrement des malades, tout ça? Les gens, c'est pas clair. L'infirmière n'a pas l'air très ouverte, tout ça. Pétard, on ne sait pas. Bon, après, il y en a qui sont plus doués que moi. Ça, je l'admets et je pense que ce n'est pas trop difficile. Mais voilà, on est un peu... Je veux dire, où est l'audace de la foi et où est le manque de respect? C'est toujours un peu... On est toujours dans une... Me semble-t-il, dans une ligne de crête, quoi. Dans une île de Crète où bon, on est pauvre. Donc, ce silence, une parole qui révèle. Peut-être que dans ce que vous me dites là, est-ce que là, il n'y a pas un signe de la présence de Dieu? Est-ce que là, le Seigneur, il n'est pas là, je ne sais pas, je sais pas. Tout à l'heure, je vous donnerai un témoignage un peu plus long d'une pneumonie à l'hôpital. Oui, ou alors, tiens, je peux donner cet exemple. Quand j'étais à Perona, je me rappelle, j'étais allé voir une dame. Alors, ce n'est peut-être pas directement la foi, mais c'est la présence de Jésus. Et alors, cette dame, elle était âgée, elle avait la sclérose en plaques, elle était dans un fauteuil, elle ne pouvait rien faire. Bon, elle avait envie de mourir. Tout ça, elle ne voyait pas à quoi sa vie servait, c'était triste, toi. Moi, j'étais diacre ou j'étais encore séminariste, je ne sais plus. Oh, bon, il y a beaucoup de souffrance, toi. Et puis dans la cuisine, il y avait plein de dessins, tu sais, des dessins de gamins, là. Tu sais, vous voyez quoi. Bon, voilà, il y en a qui sourient, donc ils voient. Bon. Et puis tout c'était mais vraiment tapissé, quoi, hein, tapissé. À un moment, je me dis, mais votre vie, elle ne sert à rien. Parce que vous ne pouvez plus faire les gâteaux, vous ne pouvez plus faire ceci ou cela, etc. Mais dis donc, quand je vois tous vos dessins, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas. C'est vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ben oui, tout ça. Et donc, c'est important que vous soyez là, pour eux. Parce que s'ils font tous ces dessins, ça veut dire que la mamie, ou la grand-mère, ou la bonne maman, comme ils disent, eh bien, elle est signe de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sa vie a une importance. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Vous voyez? cette parole, on est pauvre, on est petit, mais elle est à être donnée, quoi. Elle est à être donnée. Les gens attendent. Cette parole qui révèle, c'est le Seigneur. Délicatement, pas nécessairement, parce que parfois on se tait et puis c'est tout. Hein. Une parole qui confirme, qui conforte dans la foi. Parfois les gens nous disent, si j'avais pas la foi, hein, s'il n'y avait pas Jésus, ou s'il n'y avait pas la prière, c'est vrai ça. C'est vrai que la foi, le Christ, nous fortifie, nous console. Ça veut dire qu'on rentre en communion de foi. Et ça, c'est bon de le manifester. C'est pas tout automatique. C'est pas tout automatique. C'est Astérix. Bon. Hein? Donc, cette importance de signifier qu'il y a cette communion de foi. Des personnes qui sont seules, des personnes qui sont dans une maison de retraite ou autre, dans un EHPAD. Hein? Oui, un EHPAD. Eh bien, c'est important de manifester. Il y a notre présence, mais il y a cette parole qui signifie notre communion de foi. On se retrouve dans cette foi. Et on se le dit. Quand on dit « je crois en Dieu » à la messe, ce n'est pas pour des prunes. Hein? C'est « je » qui fait un « nous » et qui nous conforte aussi dans cette foi commune. Oui. Donc une parole qui confirme, qui conforte, elle l'éclaire, mais elle est aussi signe de communion de foi. Une parole qui ouvre un chemin. Une parole qui ouvre un chemin. Ça peut être une proposition de foi. Dire le Notre Père. Bon, vous m'avez dit tout ça. Est-ce que on va confier ça au bon Dieu, vous voulez bien? On va confier ça au Seigneur, vous voulez bien? On va peut-être dire un Notre Père, je vous salue Marie. Ou parfois un merci, ou parfois aller plus loin. Quelque chose, une rencontre. Et vous voudriez confier tout ça au prêtre pour recevoir le pardon de Dieu ou pour avoir le sacrement des malades, l'onction des malades, une proposition. Voilà, qui est à la fois un témoignage et un accompagnement, là. Alors, pour reprendre tous ces points, je vous cite le témoignage de Brigitte. Brigitte, c'est une amie qui était aumônière de l'hôpital à Brive-la-Gaillarde. On dit Brive-la-Gaillarde et Tulle-la-Paillarde. Bon, quand on voit ce qui sort de Tulle, bref. Et donc, quand il y a les matchs de rugby Brive-Tulle, ça finit toujours en baston. Toujours. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est laid, Tulle. C'est très laid. Brive, c'est mignon. C'est le riant portail du midi. Et alors Brigitte, elle est à la retraite depuis 3 semaines, enfin 1 mois. Bon, alors voilà, je lui avais dit, tu sais, je vais parler, est-ce que tu as des témoignages, ou toi, est-ce que tu as déjà réfléchi, etc. Bon, alors, elle m'a envoyé un texte, et puis il y avait des choses dedans, et puis là, j'ai coupé un peu. Voilà, je la cite. Madame O a des larmes plein les yeux à la rencontre. Elle me demande ce que je peux lui apporter. Je lui dis que je suis une présence d'Église, que je suis là pour l'écouter. Et elle affirme ce qu'elle est. Elle me dit, voilà, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants, et c'est les 2 petits-enfants qui me posent vraiment une grande souffrance. Puis il y en a un, c'est un amour, je connais les petits, etc. Et puis l'autre, il a divorcé, il s'est remarié, je ne connais pas mes deux petits arrière-enfants, mes 2 petits-fils, mes arrières, pardon, c'est les arrières là déjà. Arrière-petit-fils, c'est vraiment, c'est une grande, grande souffrance. Je suis malheureuse, je crois que tout cela va me faire mourir. Qu'est-ce que vous proposez? Personne n'attend une parole. Alors voilà ce que dit Brigitte. Je reprends avec elle ce qu'elle vient de me confier. Écoute active. C'est très intéressant ce témoignage, il y a plein de choses. Je reprends avec elle ce qu'elle vient de me confier. J'ai bien entendu ce que vous me disiez. Voilà, j'ai bien entendu. Je reprends avec elle. Je reprends son histoire. Et je lui propose un temps de silence. Intéressant. Je propose un temps de silence. Puis, nous redisons ensemble un autre père. tout cet écoute, ce témoignage, cet accompagnement. Je lui propose que toute cette histoire puisse être écoutée par un prêtre, pour qu'elle reçoive une libération, une guérison intérieure, un soulagement, une paix, par rapport à sa colère qui l'habite, de son désarroi. Alors la dame a dit « Oui, une guérison intérieure ». Alors Brigitte dit, je lui dis, attention, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est pour vous apaiser, vous soulager, vous faire rencontrer le Seigneur. Quoi. Bon. Et la dame, elle répond, ah oui, c'est pas Mimi Mati. Elle a compris. Mimi Mati, vous connaissez? Oui, bon. On voit ce que vous regardez à la télé. Elle n'avait pas de référence, les feux de l'amour, hein. Bon, bref. Alors, elle semble un peu apaisée. Et alors Brigitte continue, « Je n'ai pas revu cette personne. » Ça va nous ouvrir à un autre point. « Je n'ai pas revu cette personne. Elle est sortie avant que je ne puisse repasser. » Oui, ça c'est des choses. « Peut-être un peu de frustration, mais c'est aussi en cela que l'on voit que le Christ prend le relais. Seigneur, cette personne ne m'appartient pas. » C'est important hein, aussi. Ce n'est pas mon malade, pas ma personne, ce n'est pas mon. Hein. Ce n'est pas évident être passeur. Hein. Mais nous sommes des passeurs éphémères, mais comblés. Le bon Dieu, le laisser faire et se laisser faire, dit Brigitte. Alors, tout ce dernier petit paragraphe nous ouvre un sixième point, cette dimension de la souffrance. Vous savez, hein, c'est ce que dit Brigitte, là, cette frustration, et puis aussi il y a eu cette souffrance de la personne. Ça peut faire écho aussi dans notre propre vie, parce qu'on a des difficultés avec un petit-fils, une petite fille, avec des enfants, que notre famille n'est pas indemne, heureusement. Enfin, heureusement, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas hors sol, c'est malheureux, mais je veux dire, on connaît aussi la souffrance. Et parfois, la souffrance des autres, rejaillit, résonne en nous, et parfois résonne tellement que ça peut nous faire vaciller, c'est sûr. Alors, donc, vous savez que témoin, en grec, ça se dit aussi, ça se dit pas aussi, ça se dit martyr. Hein, voilà, ça, vous faites une drôle de tête. Hein. Le martyr. Être témoin, c'est aussi cette rencontre avec la souffrance, c'est aussi le témoignage dans la souffrance, par la souffrance. Ah, alors on voit qu'on n'est plus dans l'ONG humanitaire. Hein. Alors, derrière, il y a martyr, il y a l'idée de persécution et l'idée de souffrance. Alors, je vais développer les deux points. Alors, persécution, le mot est un peu fort. Hein. Mais au fond, derrière, qu'est-ce que je veux dire? C'est parfois ce qui nous fait souffrir, et c'est aussi par là que passe notre témoignage, et notre communion au Christ, le témoin fidèle, c'est parfois le non-accueil des personnes, ou le rejet de la foi, ou la distance. On voit des personnes avec l'âge, je vois une dame là, qui venait bien à la messe, bon, elle a été fatiguée, maintenant elle a 100 ans, bon... Après, je lui ai porté la communion, et puis après, elle a dit, ben, je regarde la messe à la télé, ça me suffit, tout ça. Alors bon, ben là aussi, on va pas, je veux dire, on va pas s'imposer, puis on est délicat, et puis bon, voilà. Je me rappelle, là, quand j'étais à Trévoux, là, cette dame, il y avait eu un chemin, une dame des soins palliatifs, hein, il y avait eu un très, très beau chemin de foi, elle avait demandé le sacrement du pardon, il y avait eu tout un chemin, c'était très, très, très beau. Puis un chemin en église, avec les visiteurs, tout ça, non, c'était très beau. Et puis à un moment, elle a dit, je ne veux plus vous voir. Tu vois, ça t'interpelle, enfin, tu te dis, merde, crudi, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, bon. Je pense que pour une part, cette femme, elle commençait à voir que son cancer était en train de prendre la tête, elle ne trouvait plus ses mots, elle voyait qu'elle allait se dégrader, elle ne voulait pas se montrer comme ça. Et elle dit, je ne veux plus voir personne. Il n'y avait pas que l'aumônerie, il y avait ses enfants, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que ça... Bon, c'est le mystère de la personne qui vit sa souffrance dans ce chemin-là, de cette manière-là. On reste un peu... reste tout pauvre, tout petit, là. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Voilà, ces personnes qui semblent s'arrêter ou qui refusent de nous revoir ou qui disent « Oh, ben, la messe, oh, ben, bon, voilà. » C'est très mystérieux. Et le deuxième point, je disais, pour ça j'avais appelé ça persécution, dans le sens de refus de la foi. Ce n'est pas un jugement des personnes, hein, mais c'est un lien d'idées. Et puis le deuxième point, la souffrance, les souffrances. Eh bien, ce témoignage qui est un martyr de la foi, qui est de cette présence, c'est Marie au pied de la croix, au pied, avec celui qui souffre, dans notre... pauvreté, qui nous déstabilise, qui renvoie notre mort à notre propre incomplétude, à notre fragilité, et puis aussi qui questionne notre foi. Mais Seigneur, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Ça nous dépasse. On est pauvre, on est témoin de, au milieu de l'obscurité, au milieu des ténèbres. Être là avec. Mais, alors le mot souffrance n'est pas exact aussi, ben, je l'ai déjà un petit peu dit, notre impuissance, notre échec. On avait fait là une journée de récollection avec le Secours catholique l'an dernier sur l'impuissance devant les situations parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, rien. Enfin, comme ça, vue humaine, hein, et on n'a pas l'impression que les gens avancent, que les gens sont fermés, ouais. Les gens sont arc-boutés sur une chose. On n'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Et là, on a à être témoin, je dirais, et notre témoignage, c'est le témoignage du Christ qui vit dans sa chair, sa proximité avec le monde en souffrance. Hein. C'est Jésus sur la croix qu'on rejoint, qui est le témoin de l'amour. Pensons aux sept paroles du Christ en croix, hein. À la fois « Pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et à la fois « En tes mains, je remets mon esprit ». Ça va jusque-là, notre témoignage. C'est-à-dire que ce témoignage, ce n'est pas uniquement un faire, ce n'est pas uniquement un truc, ce n'est pas des recettes, c'est pas des, même s'il y a des repères dans l'écoute, le mot technique est un peu trop fort, mais des repères pour écouter, pour proposer tel sacrement ou autre, une formation, mais il y a aussi une formation de notre cœur, hein, qui s'associe au cœur compatissant du Christ. Et ça, c'est aussi ce mystère-là que nous vivons dans nos visites. Sinon, ça veut dire qu'on reste encore à la porte. On reste encore à la porte. On est encore dans le truc. Dans l'ONG, comme disait le pape, confesser le Christ, c'est ça. Les confesseurs de la foi, c'est ceux qui ne sont pas martyrs, mais ceux qui ont confessé de bouche et de corps et de cœur leur foi dans le Christ. Et ce témoignage, dans cette dimension de martyr, c'est ça, être... ben, la souffrance de l'autre me touche. Et je la porte au Seigneur, je la vis avec le Seigneur. Je rejoins le Seigneur dans cette proximité mystérieuse avec les malades. Moi, je me rappelle dans l'unité de soins palliatifs, ça m'a beaucoup marqué, ça, cette proximité de Jésus avec les mourants. On me l'avait dit, mais bon. Mais quand on le vit, enfin, c'est... ou même en donnant l'onction des malades, m'a souvent frappé cette ouverture, cette proximité, cette tendresse, et qui est au cœur de la souffrance, hein, au cœur de de la mort, qui toujours est quelque chose de... On n'est pas fait pour, hein, vous savez ça. Non. On n'est pas fait pour la mort. Hein, ça. Notre ça, c'est... On est fait pour la vie, quoi. C'est ce qu'a vécu saint Paul, vous rappelez, hein, cette phrase très mystérieuse dans l'Épître aux Colossiens, hein, « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Je suis membre du corps du Christ et donc je m'associe au Christ dans cette présence, dans cette vie donnée pour ceux et celles qui souffrent. » Alors à mon niveau, je ne suis pas sur la croix physiquement, je veux dire, à mon niveau, à ma portée, mais... Justement, être signe du Christ, être témoin du Christ, c'est jusque-là, de fait. C'est saint Paul, c'est 1,27, c'est ça, Colossiens. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Pour son corps. Il ne manque rien aux souffrances du Christ. Mais c'est pour son corps, qui est l'Église. Et ça, ce n'est pas des trucs de, abstraits ou mystico-gélatineux, gazeux, gazéifié. C'est la réalité même de notre baptême qui nous a plongés dans le Christ et qui nous configure au Christ pour vivre avec le Christ dans la joie, dans la résurrection, mais aussi dans la croix personnelle, mais aussi dans cette compassion auprès de ceux et celles qui souffrent. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des têtes d'enterrement. Hein. Ça veut dire que y a quelque chose qui entre dans résonance avec ce mystère du Christ. Septième et dernier point, la relecture. Parce que je crois que Brigitte me disait, là, mon amie hier, elle me disait, dans son témoignage, elle me disait, avant d'aller, parce qu'à Brive, la chapelle n'est pas un lieu multiculte. C'est très bizarre, la Corrèze, c'est hyper déchristianisé, mais à côté de ça, il y a des trucs hyper cathos, comme ça. Donc à l'hôpital, il n'y a pas de salle multiculte, c'est une chapelle, avec le Saint-Sacrement, avec... dans beaucoup d'hôpitaux, maintenant, c'est des salles de prière, ou des salles de... même pas prière, ils vont dire, je sais pas quoi, méditation, ou silence, ou... voilà. Alors là, pour l'instant, à Brive, c'est comme ça, bon. Alors elle me dit, avant mes visites, je vais prendre un temps, là, auprès du Saint-Sacrement, de prière, Et puis, après, la relecture. L'importance de relire. Je crois que ça, on ne le fait pas assez. Alors, ce n'est pas une relecture psychologique. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, ou que ce n'est pas bien, ou que c'est nul. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une relecture avec un coach. C'est très à la mode, hein, pour savoir comment on va faire. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'a plus grand-chose à dire. Donc, c'est une relecture spirituelle. Une relecture spirituelle. Qui n'oppose pas, et puis parfois, ça se recouvre un petit peu, hein, bien sûr. Mais là, devant le Seigneur, relire tout ça. On peut relire tout seul. Peut-être s'apprendre à le relire tout seul, parce que nos visites, ça dépend comment on les fait, mais peut-être proposer dans les paroisses ou autres d'avoir des temps de relecture communes avec l'aumônier ou avec un responsable d'équipe ou ça, quelque chose qui est certainement à réfléchir ou à faire un canevas au niveau diocésain ou bon, bien. Relecture pourquoi ? Alors, 5 petits points. C'est bon, vous dormez pas ?
Non.
Bon. Alors, le premier petit point pour faire mémoire. Le père Stanislas se concentre. C'est bien. Hein ? Relire les rencontres. Qu'est-ce qui a été marquant ? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir ? Qu'est-ce qui est lourd à porter ? Qu'est-ce qui a été dit de la part des personnes, de moi, qui sont signes de Dieu ? Signe de sa présence, des paroles, des gestes, une démarche. On présente tout ça au Seigneur. Faire mémoire de ce qui a été vécu pour le présenter au Seigneur. Faire mémoire, c'est aussi une manière de s'arrêter pour « Seigneur, tu étais là. Seigneur, tu es là. » Et Seigneur, tu nous dis quelque chose. important. Tu es là, tu nous dis quelque chose. La musique est d'accord. Ça. Deuxième point, relire pour rendre grâce. Rendre grâce pour ces signes de la présence du Christ dans l'autre. Mais aussi en Bibi, en moi. Et alors là, je pense que se rendre grâce permet d'éviter deux écueils. Deux écueils. C'est tout couillon, hein. Le premier, c'est le risque de ne pas nommer les choses, de ne pas expliciter les choses. Oh, c'était beau, oh, c'était bien, oh, j'ai vécu un bon temps cet après-midi, là, avec ces personnes. Mais je ne l'explicite pas, je ne le verbalise pas, je ne le nomme pas. C'est important. Voilà, ce que j'ai vu, c'est ça. C'est peut-être bien aussi, parfois, de l'écrire, un petit carnet, hein, telle parole. Parce que dans les moments où on se dira, mais à quoi qu'on sert, hein, et puis, qu'est-ce que je fais là, qu'on est un peu découragé, on reprend le petit carnet, dit, ah, cette parole, cet acte, cette petite chose qu'il y a eu, qui m'avait consolé, vous savez, dans Saint Ignace, la consolation, hein, qui est cette joie, l'importance de la joie chez Saint Ignace, plus que la paix, hein, cette joie de la présence de Dieu. Et donc les joies, quand le bon Dieu y passe, il donne la paix, mais il donne surtout la joie. Cette joie de ce qui est beau et bon. Nommer, expliciter. Et puis, ça nous aide à tenir dans le témoignage lorsqu'on se demande à quoi on sert. Ça, je l'ai dit. Bon, pardon. Deuxième écueil, je l'ai un petit peu dit, mais c'est beau, c'est bien, je le nomme, et voilà, je m'arrête. Non, merci qui ? Merci Jésus. Merci Seigneur. On ne le prie pas. Alors on a plein la bouche de la présence de Dieu, de ceci, mais est-ce que nous disons, Seigneur, merci pour Madame truc là avec Jésus, je viens vers toi. Jésus, tu viens vers moi. Jésus, je viens vers toi. Merci Seigneur. Eh oui. Ça, on rentre dans notre sacerdoce baptismal. Eh oui, depuis notre baptême, comment on est député. Hein, on a cette mission de louange, on a cette mission de prière, de se tenir dans le Christ, avec le Christ, hein, qui intercède pour nous, toujours, comme dit la Sainte Écriture, auprès de Dieu, devant le Père, dans cette intercession, dans cette action de grâce, par lui, avec lui, le Christ, hein, et en lui, à toi Dieu le Père. Alors on peut voir ça comme un film où on est, et encore un film, on se projette encore plus. On se projette plus. Mais parfois dans la foi, on est là. Donc un écueil, l'autre écueil, c'est on ne traduit pas en prière, en célébration de la foi ou en intercession cela. Donc importance de rendre grâce, et c'est-à-dire de nommer, préciser les choses et d'en faire une prière. D'accord ? Deuxième point, c'était rendre grâce. Troisième point, l'intercession. Présenter au Seigneur les personnes rencontrées. Parce que parfois, il n'y a rien de particulier. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas quelque chose de marquant. Hein ? Et telle personne. Voilà, j'ai vu telle et telle personne. Quatrième point dans cette relecture, peut-être demander pardon. Parce qu'on n'a pas été très écoutant, on n'a peut-être pas été bienveillant. Ça peut arriver, hein. Cinquième point. Alors, peut-être que ce que nous aurons vécu nous fera penser à un passage d'évangile ou un passage de la parole de Dieu. Ça peut nous aider à reprendre ce passage, et à la fois ce qu'on a vécu nous l'éclaire, ou un psaume. Voilà, 5 points de relecture. Après, c'est à voir comment on les agence aussi, comment on les... Certains vont plus vite, etc. Puis il y a des moments où c'est tel point qui nous touche. Mais je pense que spirituellement, pour notre vie spirituelle, personnelle, et donc aussi pour notre témoignage, pour notre rayonnement, pour ce que je disais tout à l'heure, disciple missionnaire, disciple. Il y a d'abord disciple, hein. Être avec. Pour notre être avec, c'est-à-dire que cet être avec, le Seigneur, n'est pas, d'une certaine manière, on pourrait le croire, indépendant, comme un à côté de nos visites. C'est-à-dire que nos visites peuvent aussi nourrir cet être avec le Seigneur, peuvent alimenter cet être avec le Seigneur, peuvent nous provoquer à cet être avec le Seigneur. Il y a un va-et-vient. Et si on ne veut pas être des cymbales retentissantes, c'est-à-dire grandir dans la charité, c'est, il y a quelque temps, j'ai découvert que, vous connaissez cette phrase de saint Paul, de Galates, je ne sais plus combien, la foi agissant par la vérité, la foi agissant par la charité. La foi qui agit par la charité, c'est-à-dire notre foi de croire que le Christ est Dieu et aussi notre foi qui accueille son commandement de l'amour du prochain, hein, va agir, va se manifester par la charité, par l'amour des autres et l'amour de Dieu. Bon. Mais il y a le grec, en fait, on pourrait traduire, et les pères de l'Église grecque, beaucoup l'ont traduit comme ça, la foi agit par la charité, agit, participe passé. La foi qui est mise en action par la charité. Les deux. Les latins, ils ont surtout vu la foi agissant par la charité. Et les grecs, hein, ils ont surtout compris, et la grammaire grecque le permet tout à fait, parce que le verbe, vu le temps du verbe, mais peu importe, hein, la foi qui est mise en mouvement par la charité. Vous voyez, ces deux, cette complémentarité. Et du coup, ça nous fait grandir dans notre vie chrétienne. Ça nous fait grandir à la fois dans notre discipline, notre caractère de disciple, disciplinidité. Bon, vous avez compris, hein ? Il faut que j'arrête, il reste 2 minutes. Donc, dans notre caractère de disciple et nous fait grandir aussi dans notre caractère d'apôtre. Les deux, mon capitaine. Et sinon, ça ne marche pas. Le pape Jean-Paul II nous disait ça. La foi grandit en se donnant, en se transmettant, en s'ouvrant. Alors, par la catéchèse, par la visite des malades, par tout ce que, l'activité de l'Église, mais là, on est dans cette dimension-là. Hein ? Voilà. Voilà, messieurs, dames. Alors, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes pour sur place, on ne bouge pas.
Et aussi les soignants, de faire connaître leur présence.